car dans toutes les civilisations modernes, c'est-à-dire dans toutes les civilisations nées de la machine, l'homme se trouve aujourd'hui en face du plus grave conflit de son histoire.
C'est tout naturel, c'est tout naturel, c'est tout naturel. C'est tout naturel.
Bonsoir à toutes et à tous, Christian Cos pour C'est tout naturel. Ce mois-ci, nous avons un nouveau sujet, ce sont les déchets. On va parler pendant toute cette heure en direct avec les trois invités qui sont autour de la table et que je vais vous présenter, des déchets. Alors les déchets, c'est vrai que c'est un vaste débat et un vaste problème. On va en parler, pourquoi c'est un débat, pourquoi c'est un problème. On parlera essentiellement des déchets ménagers. On ne va pas s'occuper aujourd'hui, sinon il nous faut 10 heures d'émission, des déchets industriels, nucléaires, etc. Donc pour parler des déchets, j'ai autour de moi Monsieur Raymond Gimilio, qui est docteur en écologie, qui a fait toute sa carrière au CNRS et qui a été détaché pendant 12 ans au ministère de l'Environnement. Au CNRS, ingénieur de recherche. Il nous dira un petit peu pourquoi il est là. Il est surtout là parce qu'il est le président de l'ODAM, mais il nous dira ce qu'il fait, l'ODAM. Monsieur Gimilio, l'ODAM, c'est l'Office.
C'est l'Observatoire des déchets de l'agglomération de Montpellier.
D'accord, on verra.
Association loi de 1901, bureau d'études citoyens.
On verra avec vous tout à l'heure ce qui se fait à l'ODAM. Ensuite, autour de la table, Francis Glémet, pharmacien et industriel, porte-parole de l'association AMIES, donc association pour les médecins, des médecins.
C'est ça, et médecins indépendants pour l'environnement. Pour l'environnement et la santé publique.
Santé publique, voilà. Vous nous direz ce que vous faites et pourquoi on va savoir pourquoi vous êtes là à propos des déchets, parce qu'on se dit, tiens, la santé, les déchets, on va essayer de comprendre ça. Et enfin, François Vasquez, qui est le porte-parole de l'association des riverains Gare au Sud, mais qui est aussi un écologiste engagé, puisqu'il était présent en tant que candidat aux législatives 2007 sur la première circonscription. On va essayer de voir avec vous tout ce qu'il ressort du traitement des déchets, ce qu'on peut faire. Vous allez nous dire un petit peu quelles sont vos expériences, quels sont vos avis sur ce qui se passe. Et tout de suite, on va écouter Juliette Gréco. C'est joli ça, Juliette Gréco. Alors, après tant de douceur, nous allons parler de la dureté de ce problème que sont les déchets. Les déchets, moi je sais que personnellement, je culpabilise énormément puisque j'en produis énormément tous les jours. Je mets dans ma poubelle des tas de choses et je suis halluciné de voir les kilos et les kilos que je jette tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. J'ai bien personnellement des containers en face de chez moi, le papier, le verre. De temps en temps, j'arrive à trouver un container encore pour les bouteilles de plastique. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe de tous ces déchets, monsieur Gimilio? Vous êtes à l'Observatoire des déchets de l'agglomération de Montpellier. Qu'est-ce qu'on fait de mes déchets? Ils vont où, toutes ces déchets? Moi, le gros pollueur, on en fait quoi de tous ces déchets?
Actuellement, une partie des déchets part à l'incinérateur de Lunel, parce que nous avons des accords avec l'ancien district de Montpellier pour utiliser cet incinérateur en partie. Et puis le reste, étant donné qu'on a fermé la décharge du Tot, où on balançait tout ça en vrac, sans tri, sans rien du tout, la décharge du Tot étant fermée, eh bien on paye très cher pour envoyer ça dans les départements voisins qui sont beaucoup plus accueillants vis-à-vis de nos déchets. On a des décharges ailleurs. Alors que...
Vous voulez dire que quand ma poubelle, elle peut se retrouver, je ne sais pas dans quel département...
Oui, elle peut se retrouver dans le Vaucluse, elle peut se retrouver en Haute-Savoie.
Auxerre même.
Jusqu'à Auxerre. Dans des endroits où les gens sont payés pour accepter nos déchets et on paye très cher. Et ce qui a motivé le démarrage de l'Observatoire des déchets de l'agglomération de Montpellier, ça a été la brutale augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui a augmenté dans certains endroits de 130%. On a voulu savoir. Donc on s'est réunis, une petite association d'une douzaine de membres, tous ingénieurs, ayant eu des responsabilités dans la société civile, et on a voulu se pencher pour savoir ce que ça devenait. Puis on s'est rendu compte que là, il n'y avait pas grand-chose, le tri ne se fait pas. Vous parlez tout à l'heure de conteneurs à plastique qui n'existent pas ici. Moi, je les ai vus, ces conteneurs en plastique, dans des petits villages de Touraine, des cages, de grandes cages en acier inoxydable dans lesquelles les gens vont jeter leur plastique. Et il y en a pour des plastiques de différentes couleurs. Plastique blanc, les plastiques de bouteilles de lait. dans ces endroits-là, on a des... Si vous n'avez pas le conteneur voulu, vous ne pouvez pas trier.
Parce que moi, on m'a dit, l'autre jour, je suis allé jeter dans une déchetterie d'autres ordures parce que je déménageais. Donc, je jette beaucoup. Je suis désolé. Il va falloir que ça change. Donc, justement, vous allez me dire comment on peut faire. Et je rencontrais un employé de la déchetterie qui voulait pas, il voulait être anonyme. Donc, j'ai pas pu l'inviter. Mais il me disait, il y a quand même un conteneur là où je suis pas loin de plastique, mais il n'y en a pas beaucoup. Et il me disait, mais de toute façon, ça part à l'incinérateur parce que c'est comme il y a de tout dedans, ça part au brûlage. Donc ça veut dire qu'on croit que tout ça est
sans danger.
Et avant d'être sans danger, on croit que c'est effectivement recyclé. Hein, et en fait, ça ne l'est pas. Ça va effectivement à l'incinérateur. On va parler de cet incinérateur.
Nous avons vu, dans le début, nous sommes allés faire des visites, nous sommes allés voir Déméter. Déméter est une petite unité qui aurait dû être multipliée par 10 et même par 100. Parce qu'à Déméter, on reçoit le contenu des poubelles dites vertes, qui normalement ne doit pas contenir de matière organique, de choses qui pourrissent. Et on a vu la manière dont travaillaient les gens de Déméter, c'est hallucinant de voir.
Alors les gens de Déméter, c'est où pour
expliquer ? Déméter, c'est à pas très loin de Gare au Sud, du côté de la Jeune Parc, à côté derrière le parking des tramways.
L'endroit où on est censé trier. Voilà.
Effectivement, ça.
Les déchets.
Il se trie des choses intéressantes. On a vu des camions entiers partir chargés de balles de carton. En direction de l'Espagne, des camions espagnols qui viennent, et il y a eu une noria continue, ils achètent notre carton. Et ben, de temps en temps, une partie de ces cartons sont brûlés, parce que du côté de l'incinérateur, on hurle, il n'y a pas assez de matière combustible qui arrive. Donc une partie des cartons est discrètement envoyée vers l'incinérateur à brûler. Donc il n'y a pas vraiment une approche écologique, une approche saine, citoyenne, dans laquelle on trie des choses. Puis une fois qu'on a trié, eh bien, on recycle.
Mais pourquoi il n'y a pas cette approche ? Maintenant, tout le monde en parle, tout le monde lave plus blanc que blanc, les politiques, comme les entreprises sur le plan commercial, tout le monde a son petit argument en boucle d'oreille. Et là, vous me dites qu'en fait, ça ne se fait pas.
C'est de la façade.
C'est de la façade.
Oui, c'est de la façade.
C'est une façade.
Soyons clairs. Hein.
J'en doute pas.
C'est ce qu'on appelle, ce que les anglo-saxons appellent le greenwashing. C'est-à-dire que maintenant, on se sert de l'environnement comme facteur de vente. Mais d'aucune manière on fait réellement de l'environnement. Les grands trusts et les grands lobbies s'appellent toujours mettre le mot environnement dans leur nom maintenant, vous savez.
Et oui, oui.
Mais ça sert à vendre, ça sert pas forcément à faire de l'écologie, loin de là.
Et la preuve, c'est que ceux qui font de l'incinération font aussi de la méthanisation industrielle. Donc c'est simplement dévier un problème du déchet, puisque le déchet, c'est une valeur ajoutée. Et quand on en produit autant dans notre pays, on est pratiquement les champions d'Europe, eh bien on peut s'apercevoir que effectivement c'est une valeur marchande dans laquelle effectivement le dos du contribuable va le payer peut-être plusieurs fois. Un élément peut-être qu'il faut d'entrée de jeu mettre dans le débat, c'est aussi que l'incidence sur la santé n'est pas sans danger et qu'à partir de ce moment-là, c'est un autre organisme qui paye le déchet.
Alors, excusez-moi, je vous interromps. Quand vous parlez de l'incidence sur la santé, vous êtes Francis Glémé, vous êtes le porte-parole de l'association Amiens, une association de médecins
et professionnels de santé,
professionnels de santé,
de veille sanitaire autour de l'incinérateur de l'Aisne Vieille.
De l'Aisne Vieille. Alors, donc ça, c'est que pour la santé, vous parlez des incinérateurs. Hein.
Oui.
Vous ne parlez pas d'autres formes de...
Tout à fait. Si on conduit mal une méthanisation ou un compostage...
D'accord. On va parler de tout ça. Donc, oui. Alors, vous disiez, qu'est-ce qui n'est pas bon pour la santé là, dans l'incinération ?
C'est comme quand on fait un feu. Si on brûle un certain nombre de matières qui peuvent produire des produits dits cancérigènes, c'est un vrai barbecue qu'on avait jusqu'à présent dans les incinérateurs. Après, moderne, on a mis des filtres, on a enlevé un certain nombre de quantités de produits, mais on s'est bien rendu compte qu'aujourd'hui, des gens qui vivaient autour d'incinérateurs type barbecue sans aucune protection, eh bien favoriser et développer un certain nombre de pathologies cancéreuses. Et on j'ai même aperçu plus près qu'on développait aujourd'hui des maladies asthmatiques, on réduisait l'immunité, et même on avait sur le problème aujourd'hui des sexes ratios, des inversions. Enfin, il y a tout un danger par l'incinération que beaucoup d'associations et de professionnels de santé sont montés au créneau, et nous existons, nous, la MIES, depuis 15 ans, et nous faisons savoir maintenant très largement, et cette association participe aujourd'hui nationalement à la coordination médicale santé-environnement qui permet aux professionnels de santé aujourd'hui de prendre en compte. Et donc dans ces éléments-là, quand on voit effectivement l'asthme, toutes ces pathologies d'immunité, de la reproduction par les dioxines, les métaux lourds qui sont des éléments qu'on retrouve, on a calculé plus de 2000 produits à la cheminée d'un incinérateur.
Mais là, attendez, la population qui se trouve, parce que je reprends mon petit sac poubelle, moi, ça va plus en décharge, il va donc, il part à Montpellier, il va à l'incinérateur de Lunel-Vieil.
Où ?
Vous êtes en train de me dire, en fait, moi j'essaie de traduire, hein,
ouais,
que les gens qui vivent dans cette ville et aux alentours, hein, ils sont en danger, en fait.
Alors, un danger immédiat, non, mais un danger de santé publique immédiate sur l'asthme, sur les allergies, sur un certain nombre de pathologies respiratoires et ORL, certainement. C'est pas tout de suite autour de l'incinérateur, mais c'est tout autour, dans un périmètre de près de 4 à 10 kilomètres, qu'on va retrouver cette incidence-là. Et on l'entend bien par les professionnels de santé aujourd'hui. Et plus on va brûler de déchets tout mélanger, plus on aura de production, de produits qui vont engendrer effectivement ces pathologies. Alors, pour terminer sur ce point, c'est donc la collectivité qui, par la sécurité sociale, va payer aussi les effets des déchets. Donc, en fait, on va payer les déchets à deux niveaux. Donc ça, c'est une notion qui est quand même assez nouvelle et assez importante qu'il faut introduire dans notre débat, parce que si on fait une mauvaise gestion des déchets, et on sait que si on a une bonne gestion des déchets, on peut réduire les quantités et on peut en réduire les coûts, et on aura un effet bénéfique aujourd'hui sur nos dépenses de santé.
Alors là, si vous mettez en place l'argument financier, alors là, rien ne va plus. Nous sommes très loin d'une envie comme ça, éthique et désintéressée, c'est lié à l'environnement. Non, mais vous avez raison, après tout, pourquoi pas, effectivement, de toute façon. Alors, moi, je voudrais revenir à Monsieur Raymond Gimilio. Hein, vous occupez de vous êtes le président de l'Observatoire des déchets de l'agglomération de Montpellier. On en est où là?
Eh bien, actuellement, on en est avec les participations, parce que nous ne sommes pas tout seuls. Nous travaillons en réseau d'autres associations. Nous prenons part aux travaux du collectif interassociatif des déchets de l'Hérault. Nous essayons de mettre en place une planification sérieuse et rationnelle du traitement des déchets au niveau du département, pas seulement de l'agglomération. Nous travaillons sur l'agglomération de Montpellier. Bon, sur l'agglomération de Montpellier, on est arrivé à fermer la décharge du TOT. On a un petit bout d'incinérateur dont on est partie prenante à Lunel-Vieil, et pour le reste, on est parti sur une observation que le tri n'est pas suffisant. On trie déjà sur Montpellier, on essaye, mais c'est très théorique, parce qu'on se rend compte, quand on va regarder le contenu des poubelles, dans mon immeuble, nous avons des gens qui font du tri dans l'immeuble où j'habite. Eh bien, de temps en temps, on retrouve de la matière organique, des déchets ménagers fermentescibles dans la poubelle verte, qui devrait partir vers Déméter. Et puis, de l'autre côté, on trouve des bouts de papier et de carton qui sont jetés dans la poubelle de déchets fermentescibles. Alors, il y a un très très gros travail à faire, et nous le préconisons depuis longtemps.
D'éducation.
Alors, nous sommes associés actuellement avec une association d'éducation populaire. Nous allons commencer dans l'année qui vient maintenant à travailler avec eux pour passer au niveau des élèves, des jeunes gens qui sont accueillis dans les centres de vacances et les camps de vacances, et leurs formateurs, à leur apprendre à trier. Alors, sur l'agglomération de Montpellier...
Excusez-moi, je vous interromps. Oui. Si on apprend à trier pour que tout aille dans un incinérateur, je vois pas l'intérêt.
Non, parce que l'idée, c'est de faire autre chose que de l'incinérateur.
Alors,
Et cette autre chose que l'incinération, c'est sur la partie des fermentescibles des ordures.
Oui.
Le compostage.
50% de la poubelle. Hein.
Oui, le compostage.
50%.
Et la méthanisation. Ça, ce sont les deux traitements qu'on peut appliquer à la partie qui fermente, la partie organique, les épluchures de pommes de terre, les écorces d'orange.
Il y a un projet d'usine de méthanisation.
Oui, il y a un projet.
C'est intéressant, donc, puisque vous il y a le compostage, la méthanisation.
Il y a un projet. Et puis,
vous êtes pour, alors, sur ce projet de méthanisation?
Nous sommes pour la méthanisation sur le principe, mais pas sur la façon dont elle est réalisée.
Donc, vous êtes pour sur le fond, mais pas sur la forme.
On est d'accord sur le fond, on n'est pas d'accord sur la forme, parce que la forme, l'usine est trop grosse. L'usine est trop grosse. On l'a vu dans d'autres pays européens, où les usines sont de taille beaucoup plus modeste et où on trie effectivement. On trie et on fait bien la séparation au niveau citoyen.
Attendez, si l'usine est trop grosse, c'est parce qu'il y a un nombre d'habitants, parce que l'agglomération est grosse.
On pouvait faire 4 petites usines à la périphérie de Montpellier.
Alors François Vasquez qui va intervenir là,
c'est sûr. Je voudrais déjà vous donner une petite équation pour expliquer pourquoi l'usine de Montpellier, d'abord, c'est la plus grosse jamais faite en France. Et il faut savoir que quand on fait le tri, ce qui est encore loin d'être le cas sur Montpellier, quand on arrive à faire trier les ménages, on ne peut pas isoler plus de 50 kg de fermentescibles par habitant et par an. L'agglomération de Montpellier fait 400 000 habitants.
Alors attendez. 50 kg de fermentescibles, c'est-à-dire c'est les restes alimentaires, c'est ça?
Si vous voulez faire des efforts actuellement...
Moi qui jette énormément...
Si vous triez tous vos déchets de cuisine, toutes vos épluchures, vos restes de viande, tout ça, et même vos tondes de gazon, toutes ces trucs-là, vous ne pourrez pas amener à beaucoup plus de 50 kg par habitant et par an. D'accord. On a 400 000 habitants à Montpellier.
Ah mais moi, je jette plus que ça par an.
Ça fait une équation par habitant, pas par ménage. Ouais. Ça fait donc une équation de 20 à 25 000 tonnes. Or, l'usine de méthanisation de Montpellier fait 110 000 tonnes. C'est-à-dire que vous avez un rapport qui est bien trop important. Je sais qu'on va y ajouter des déchets verts. Mais ce que je veux dire, ce que je veux expliquer aux Montpelliérains, c'est qu'en fait, pour faire une bonne utilisation de la méthanisation, il faut mettre que des matières organiques triées à la source. Or, on va faire de la méthanisation avec des déchets mélangés.
Ah, je vous interromps. Alors, si pour faire une bonne méthanisation, il faut qu'il n'y ait que des matières organiques, dites-moi par quelle extraordinaire action ou réflexion il y a cette idée de mettre autre chose que des produits organiques fermentés.
Alors, vous voulez en fait me faire dire pourquoi a-t-on pris cette énorme solution de méga-usine?
Oui. Eh bien, on met tout dedans, en fait, c'est ça.
Je vais vous expliquer parce que...
Dans une usine de méthanisation comme ça, mes bouteilles de plastique, où je ne sais pas où les mettre, si je n'ai pas de conteneur, et de toute façon, on me dit que ça va à l'incinérateur, je les mettrai là-dedans et ça ira dans une usine de méthanisation, c'est ça?
En fait, non. Ça veut dire qu'on va prendre les déchets qui ne sont pas triés à la source par les habitants, qui sont mélangés dans leurs poubelles, et on va les trier par un tri en usine.
Ah, ça va être trié.
Or, le principe d'un tri en usine, comme je le dis souvent, comme on le dit souvent, c'est comme le blanc et le jaune de l'œuf. Quand vous mélangez le jaune et le blanc d'un œuf, après, vous ne pouvez pas les séparer par la suite. Eh bien, les ordures, c'est pareil. Quand vous mettez des fermentescibles, qui sont des matières organiques humides, avec des déchets inertes, vous avez des libérations de sels toxiques. Quand après, vous allez les séparer en usine...
Je sens que je ne vais rien comprendre, mais allez-y.
C'est très simple. Quand vous allez vouloir les séparer en usine, vos matières organiques sont polluées. Et donc, quand vous allez les méthaniser, ce qui est un processus naturel, anaérobie, le compost qui va en sortir va être pollué et donc inutilisable pour l'agriculture. Résultat des courses, au lieu d'utiliser ce compost intelligemment, c'est-à-dire avec des matières organiques au départ pures et avec un compost qui va à l'agriculture, ce compost va aller en décharge. À Montpellier, il va aller à Fabrègues. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on ne saura pas où le mettre, parce qu'il ne sera pas accepté par l'agriculture. Quand on fait du compost comme de la méthanisation, c'est comme quand on fait un gâteau. On met de bons ingrédients, on a un bon gâteau. Si on met n'importe quoi, on obtient après des choses qui sont ce qu'on appellera des refus de méthanisation. Autrement dit, il faut savoir utiliser la méthanisation pour ce qu'elle a de bon, donc il faut trier à la source. Montpellier, pourquoi est-ce qu'on a fait ce gros complexe? Parce qu'en fait, la problématique des déchets en France est toujours réglée de la même façon. On met ça dans la main des industriels. C'est-à-dire que nos élus ne sont pas formés pour choisir les meilleures solutions. Et surtout, n'ont peut-être pas le temps, ni l'envie, ni la pédagogie pour responsabiliser les habitants, alors que ça ferait gagner de l'argent et ça serait meilleur pour l'environnement. Et qu'est-ce qu'on fait? On demande à des industriels de faire clé en main soit des incinérateurs, et on brûle tout, soit des méga-usines où on va trier, soi-disant, et composter ou méthanisée, mais c'est toujours des gros process industriels qui coûtent des millions d'euros. À Montpellier, on en est à presque 80 millions d'euros, et qui finalement ne résolvent rien, puisque le but est de trier pour pouvoir recycler les matières et les valoriser. Le but, c'est d'avoir une politique ensuite donc de zéro déchet ultime, puisque nos déchets, ce sont des matières premières qu'on pourra réutiliser. Écologiquement, c'est stupide de brûler des matières premières.
On enlève de l'eau.
Voilà. En fait, schématiquement, ces incinérateurs, ça revient...
On enlève de l'eau.
Pauvre petit sac poubelle quotidien. Je ne sais plus quoi en faire, moi, maintenant, à partir d'aujourd'hui. Alors, Monsieur Gimilio, vous voulez intervenir ?
François Vasquez a parlé de la matière organique qui est souillée par des morceaux de... qui ont été en contact, qui ont été... Mais les matières qui auraient pu être recyclées si elles avaient été triées à la source, elles sont également souillées par de la matière organique. Et elles ne sont plus utilisables pour faire un bon recyclage. Une bouteille de plastique qui a mijoté avec des épluchures de pommes de terre, des déchets de poulet en pourrissant et qui en est imprégnée, qu'est-ce que vous voulez en faire ? Alors que si elle a été séparée bien comme il faut au départ, on la met dans une cage séparée et elle n'est pas en contact avec le film de plastique dans lequel on a entouré les déchets parce qu'on utilise encore des sacs en plastique dans pas mal d'endroits, lui, il ne va pas se méthaniser, il ne va pas se décomposer. C'est là où on dit il faut...
Et vous voyez encore l'autre inconvénient d'une autre, et c'est encore le professionnel de santé qui réagit, parce que je crois aujourd'hui avoir une démarche intellectuel environnemental, c'est se poser la question de savoir si ce qu'on va engendrer va avoir un effet sur notre propre santé.
Et oui.
Voilà. Alors quand j'entends mes amis parler ainsi, quand on met tout en vrac, bien moi la question que je me pose en tant que professionnel de santé, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la santé de nos patients ? Eh bien, ce sont là, cette fois-ci, non plus des dioxines qu'on va retrouver par la combustion, mais ça va être les métaux lourds. Ce sont des métaux lourds qui vont être, cette fois-ci, engendrés dans les nappes phréatiques vont se retrouver dans la chaîne alimentaire. Et on va retrouver, à partir de ce moment-là, d'autres formes de pathologies, type lorrain, type les polynévrites, et qui coûtent encore une fois de plus. Collectivité.
Les jus des piles qu'on a jetées dans les ordures ménagères qui ont été attaquées par les acides provenant de la décomposition de la matière organique et qui se retrouvent coulées dans les déchets.
Alors donc, qu'est-ce que moi je suis là avec mon petit sac de déchets ménagers là, toujours là. Qu'est-ce qui devient ? On va essayer d'en parler après avoir écouté Pierce Faccini qui nous chante If I. Moi je suis toujours avec mon petit sac poubelle et puis pendant que Faccini nous disait If I, on a parlé un peu autour de la table de ce que je pouvais faire. Alors qu'est-ce que vous me disiez, hein ? Par exemple François Vasquez. Qu'est-ce que je peux faire, moi, de mon sac poubelle ? Est-ce que je peux déjà agir, moi ?
Bah, vous pouvez agir, vous, déjà, en triant à l'heure actuelle avec les moyens qu'on vous donne. C'est-à-dire, on peut séparer les verres, on peut séparer les plastiques, on peut séparer... Mais c'est vrai, puisqu'on en revient à notre problème majeur, qui est dans le tri de trier les fermentescibles, donc les matières organiques. Pour l'instant, on ne vous laisse pas tellement de possibilités de pouvoir le faire.
Et j'ai l'impression, ouais.
C'est de là que la volonté politique doit s'exprimer. Et c'est de là que les résistances traînent. Pourquoi ? Parce que justement, si vous commencez à trier vos fermentescibles, vous allez commencer à rendre rentables de petites structures de méthanisation, vous allez rendre valorisables toutes les autres matières de votre poubelle, et donc vous allez passer de mode, j'allais dire, les incinérateurs et les mégastructures de traitement des déchets avec des grands tris organisés par les industriels. Voyez-vous ? Donc, en effet, actuellement, on ne vous donne pas tellement cette possibilité. Mais on pourrait très bien mettre un collecteur ou des sacs, un amidon, spécialement destinés à récolter les matières organiques. Et ces matières organiques iraient alimenter un méthaniseur qui donnerait ensuite un compost d'excellente qualité à partir du moment où le tri est fait à la source.
C'est ce qui est fait actuellement à Varennes-Jarcy, en Île-de-France, dans le CIVOM de hier, où il y a une usine de méthanisation de taille relativement modeste. Elle fait 100 000 tonnes de capacité. Elle méthanise 70 000 tonnes. Et les composts sont utilisables en sortie. Je les ai vus. J'y étais.
Alors, on nous dit toujours, mais oui, mais dans les grandes structures, on ne peut rien tenter. Alors, sauf que les Anglo-Saxons ont déjà une ville comme Helsinki, hein, qui comporte presque 10 millions d'habitants, eh bien, ils sont déjà à payer ce qu'ils produisent et ils trient plus de 50% en poids. En poids, hein.
Helsinki, 10 millions, non, il n'y a pas 10 millions d'habitants. Ah, Helsinki.
L'agglomération d'Helsinki.
Ils doivent être tous regroupés. Il fait froid là-bas, c'est chaud.
Et quelque chose. Alors, une expérience française de taille beaucoup plus montpelliéraine, c'est Lorient, qui a mis en place, justement, par le réseau associatif dans lequel les uns et les autres nous appartenons, coordonné par le Centre national indépendant des déchets pour la France. Eh bien, cette ville, un politique, a eu donc la volonté de mettre, un sac en amidon de maïs. Avec une poubelle pour récolter ça, un collecteur de déchets organiques.
De quartier, quoi. Fait dans
de quartier, d'immeuble.
Oui, c'est ça, d'immeuble.
Et donc, là-dedans, on a une puce qui va être responsable d'une cage d'escalier. Et chacun, on sait combien il va produire, effectivement, de déchets organiques. Ça sera autant d'enlever, parce qu'avec l'informatique, aujourd'hui, on est capable de tout gérer. Et on a des camions, et ça coûte pas très cher, de mettre des ordinateurs avec une pesée embarquée. Et ça, ça vous permet, effectivement, parce que l'idée... Au départ, c'est de nous responsabiliser. C'est à la fois la politique de la carotte et du bâton. Aujourd'hui, quand tout à l'heure Raymond Gemilio parlait dans notre agglomération, on a multiplié par 1,3, 130% hein, aujourd'hui le prix des déchets. Il faut savoir quand même que sur la commune, l'agglomération de Montpellier, en chiffres, c'est 100 millions d'euros sur un budget de 1 milliard d'euros. Et ça, si on le trie... Bien, on est capable de réduire de près de 40 à 50% la quantité et de réduire d'autant pratiquement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, avec des bacs collecteurs, des camions tout à fait équipés, on va avec des éco-ambassadeurs qui vont être des gens qui vont expliquer dans les collectivités.
Moi, excusez-moi, je comprends rien. Alors, si c'est si simple que ça.
Mais oui.
Pourquoi c'est pas ce qui est proposé à l'ensemble des habitants ?
Je vais intervenir. C'est les solutions les plus simples qui conviennent, les plus simples pour les décideurs politiques. Taxer les ordures ménagères par rapport à la surface de votre habitation. Vous habitez dans un logement. On connaît la superficie de votre logement. On vous dit, vous avez 80 mètres carrés de superficie, on va vous taxer au forfait sur votre superficie de logement.
Ça, c'est ce qui se passe actuellement.
Oui, c'est plus facile.
On ne va pas vous taxer sur le poids des ordures que vous produisez régulièrement. Et en plus... Ce que l'on ne sait pas, c'est que l'État, là-dessus, prélève 8% de frais de gestion.
Tout à fait.
Oh, le vilain.
Voilà, oui, le vilain. Alors,
100 millions, 8 millions d'euros.
Alors, de ce fait, eh bien...
Alors, c'est donc une émission sur la fiscalité locale. Donc,
non, mais les ordures ménagères, ça en fait partie, parce que les gens s'imaginent qu'ils ne payent pas cette taxe. C'est faux. Ce sont les propriétaires qui la payent. Et ensuite, moi, je vois aujourd'hui, j'ai payé le loyer de ma maman à Frontignan. J'ai rajouté un joli petit chèque derrière sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères que le propriétaire a répercuté sur son locataire.
Alors, attendez. Si je comprends bien, donc, les solutions aujourd'hui mises en œuvre, j'essaie de résumer, ce sont des solutions...
simples.
Ce sont des... Non, celles qui sont mises en œuvre aujourd'hui, pas celles qu'on pourrait mettre en œuvre, mais celles qui sont globalement mises en œuvre, c'est-à-dire l'incinération, les décharges, parce qu'il en reste. Il y avait, je crois qu'il fallait en 2002, il fallait qu'il n'y ait plus de décharges, mais il en reste encore des décharges.
On fait une méga à Fabreg, par exemple.
Ouais, voilà, c'est ça. La fameuse. Je crois qu'il y avait une loi, moi, sur. Il fallait plus de décharges.
Oui, c'est.
Donc on fait des gros trucs. On fait des gros trucs. Et là, vous êtes en train de me dire. J'ai en face de moi des gens qui ne vont pas rester responsables, les uns et les autres. Quelqu'un qui soit un professionnel de santé, un ancien chercheur du CNR. qui a un doctorat
ingénieur.
En écologie. Vous êtes engagé politiquement. Vous travaillez sur le terrain. Donc vous connaissez les dossiers. Donc. Alors et vous le dites un petit peu de temps en temps comme ça. J'ai l'impression que vous dites c'est il y a comme ça là des lobbies et la facilité. C'est-à-dire que pour les politiques en place, c'est la solution de facilité. Hein. On fait le truc le plus
simple.
On va pas s'emmerder. Soyons clairs. On y va.
C'est le terme.
On le fait. à l'arrache, comme on dit, voilà. Et voilà. Et puis après, bon, en plus de toute façon, comme c'est, on fait ça avec des gros groupes industriels, on va peut-être avoir des retours d'ascenseur ailleurs, je ne sais pas, je suppose, on peut tout supputer.
C'est un marché.
Parce que moi, en face de moi, trois personnes qui me disent, mais on peut faire autrement les choses. Et c'est pas ce qui est fait. Alors ça, c'est sur la tombe, hein, on est du berceau, un produit du berceau à la tombe. On est, et quand on parle des déchets, on parle de, qu'est-ce qu'on fait comme tombe pour ces déchets? On peut rien faire au niveau du berceau, si, au niveau des emballages, au niveau des, etc.
Si, zéro déchet ultime.
Les déchets, on peut remonter à la production déjà. Il faut commencer à taxer les suremballages. Il faut commencer.
On est encore dans le fric, hein, c'est bien. Hein.
On y revient, oui, parce que on n'en sort pas.
On est obligé. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ça, c'est une machine financière depuis le départ. C'est-à-dire, on produit des quantités de produits qui sont jetables, des suremballages, qui, bien sûr, sont après des mannes financières pour tous ceux qui vont les brûler.
Mais qui sont nécessaires, ces suremballages.
Mais qui sont... Non, pas du tout.
Bah, un paquet de biscuits, après, si on veut qu'ils soient conservés, qu'ils soient moelleux, on fait un petit cellophane.
Ouais, mais vous savez, c'est beaucoup plus facile de mettre un paquet dans un rayonnage avec un carton bien droit et tout, parce que ça va attirer l'œil du consommateur, et vous allez en mettre davantage. Alors qu'aujourd'hui, quand François Vasquel parle de réduction des emballages, ça voudrait dire que dans nos hypermarchés ou dans nos magasins de quartier, on n'est plus ces présentations de vrac.
D'accord.
Il faut du vrac à arriver à conditionner et acheter non plus, comme on le fait aujourd'hui, à l'unité, mais prendre son kilo de sucre, par exemple, eh bien, en morceaux d'un kilo, et non plus d'acheter les petites dosettes de 5 mg dont on ne va certainement pas utiliser la quantité.
C'est
qu'on
toute
va jeter.
Une économie qu'il faut revoir. Les biens de consommation qui sont dévolus aux jetables, il faut commencer à pouvoir les réutiliser, pouvoir séparer les matières premières facilement et les concevoir d'une manière écologique, voyez-vous. Mais pour répondre à votre question, pour en revenir au fait pourquoi les gens ne trient pas, parce qu'on ne les sollicite pas. Quand vous faites une méga-usine de méthanisation à Montpellier, dont c'est 110 000 tonnes, mais vous avez un tri de 200 000 tonnes. Quand vous dites aux Montpelliérains, on fait une usine...
Attendez, je comprends pas. On fait une usine de 100 000 tonnes.
L'usine, elle va trier 200 000 tonnes de déchets bruts,
oui.
Et elle va en méthaniser 110 000.
D'accord.
Mais elle va en trier le 110
000. Il y a 90 qui sont passés où?
Alors attendez, si on voulait, on va reprendre l'équation. Mais ce que je voulais déjà vous dire, quand vous dites au Montpellierin, on va trier le 100 000 tonnes.
Pourtant,
de manière mécanique,
en maths, hein.
Mécanique, ça veut dire, c'est pas la peine que vous triez vous, puisque je vais le faire à l'usine. Je vais vous faire payer pour que l'usine le fasse. Ça déresponsabilise. Or, tout le problème de l'environnement, de l'écologie, du développement durable harmonieux, c'est de responsabiliser les citoyens. C'est de leur dire, vous avez une part, et vous, par exemple, vous voulez participer à ça. On ne vous le dit pas. On vous dit non, allez, mettez tout ensemble, vous inquiétez pas.
On s'occupe de tout.
On va le trier à l'usine de méthanisation, on va en faire un compost invendable, on le mettra dans la décharge de Fabreg, on va sinistrer Fabreg, et le reste, on va le brûler à Lunel, et on se moque des dioxines et des furanes, et vous inquiétez pas, on gère tout.
Et les mâches fer.
Donc vous allez payer, ah oui, vous voyez ce que je veux dire, cet enlèvement, et vous allez payer les conséquences
sanitaires
pour la santé, pour l'environnement.
On paye deux fois.
On paye deux fois.
Vous me faites peur à partir de ce soir. Je vais manger mes déchets, tout ce qui est carton, recyclage. Est-ce que si je les mange, par exemple, si je mange le carton, je le mâche longuement avec la saline.
En méthanisation, on va quand même digérer les cartons, les journaux. Ça sera fait. Donc, on le fait, le tri du carton ou effectivement du fer.
Vous êtes en train de me dire que c'est le gros bordel, en fait, quoi, au niveau des déchets.
C'est organisé.
Enfin, c'est pas le bordel pour tout le monde, si vous me permettez. Il y en a qui gagnent leur vie sacrément là-dessus, il y a des rentes de situation énormes.
Ça y est,
sur
on revient au fric.
On en revient toujours à ça.
Alors,
parce que les déchets, c'est de l'or. Mais c'est pas de l'or pour les citoyens, où on pourrait réutiliser, et pour la planète, réutiliser les matières premières. C'est de l'or pour ceux qui utilisent ce business. Vous comprenez? Et c'est très difficile d'en sortir, et vous verrez que le Grenelle de l'environnement n'en viendra pas à bout, loin s'en faut, parce qu'on n'a pas prévu de faire un groupe de déchets spécifiques sur le Grenelle. On évite encore.
Les professionnels de santé n'y étaient pas.
Qui était au Grenelle? Raymond?
Bah, oui.
Voilà, Raymond Gimilio, vous
Je
y étiez.
À Paris.
Francis Glémé, vous étiez.
J'étais à Paris. J'ai participé donc aux commissions d'élaboration des.
Alors?
Sur le site internet de l'Observatoire.
C'est de la parlotte ou il se passe vraiment quelque chose?
Non, sur le site internet de l'Observatoire des déchets de l'agglomération de Montpellier, l'ODAM, il y a aujourd'hui le rapport officiel du Grenelle Environnement de Perpignan. Je suis intervenu personnellement et il y a d'autres associations qui m'ont suivi pour déplorer qu'on n'ait pas voulu, au niveau de Perpignan et au niveau des villes où on a écouté les citoyens et les associations, on n'a pas voulu créer deux ateliers intergroupes qui étaient l'atelier déchets et l'atelier OGM. À Paris, moi j'ai écrit personnellement au ministre, à M. Borloo, mais je ne dois pas être le seul, puisque finalement il y a eu un intergroupe déchets au niveau du Grenelle, au niveau du Grenelle qui c'est national, pas dire le Grenelle parisien, parce que c'était des gens qui venaient de toute la France quand même, c'était le Grenelle national. Et au niveau des Grenelles régionaux, on s'est refusé à le faire. J'ai écrit à la directrice de l'environnement ici, j'ai écrit au préfet, je l'ai dit au téléphone, je l'ai répété, ça a été dit en séance, ça figure sur le procès-verbal officiel qui est téléchargeable sur le site internet de l'ODAM. Et vous verrez qu'il n'y a pas eu de réponse et on a essayé d'escamoter le problème des déchets au niveau de ces Grenelles régionaux.
Est-ce qu'on peut vous apporter quelques éléments de la discussion parisienne, Monsieur Coste, très brièvement ?
Ben non. Mais non. Alors donc on était en train de parler de. Mais bien sûr, allez-y, je vous écoute.
Bon, effectivement.
On vous écoute.
Voilà, on revient toujours à la même notion de prix. Et de économique, parce qu'on a bien vu aujourd'hui qu'entre les représentants du MoDem, des collectivités locales et de certaines organisations, pour avoir un consensus sur les filières et l'appréciation des filières, il y avait du mal à avoir effectivement un consensus. Et même sur le moratoire de l'incinération sur lequel les professionnels de santé se sont prononcés contre, et même on a amené près de 5000 personnes à Clermont-Ferrand le 6 octobre à venir manifester contre l'installation d'un incinérateur sur cette région, eh bien on a eu du mal à se faire entendre à ce niveau-là. Donc le minimum qui était demandé, c'était effectivement un moratoire. C'est-à-dire aujourd'hui ne plus installer de nouvelles structures pour apprécier sur un plan sanitaire et de manière très rapide. Parce qu'aujourd'hui, pour apprécier les dangers d'un incinérateur, il faut attendre plus de 25 ans. Hein, la problématique épidémiologique, elle est là. Donc effectivement, il y a quatre points qui ont été déterminés comme un consensus de tous les intervenants autour de la table. D'abord, ça a été la responsabilité reconnue du producteur. Ça, c'est un élément sur lequel, je crois, tout le monde est tombé d'accord.
Du producteur de déchets.
D'un produit.
D'accord.
Hein,
d'un produit.
Voilà. C'est sa responsabilité. Dès qu'il va le mettre sur le marché, il y a un élément financier dans le prix de vente qui sera compris pour être dans une filière de traitement. Ensuite, on est intervenu justement sur l'aspect d'évaluation sanitaire de toutes les techniques, la méthanisation, le compostage, le tri et en même temps l'incinération. Ça, ce sont les éléments sur lesquels on a discuté et sur lesquels il y a eu un consensus autour de la table. Le quatrième, c'est l'éco-conception. C'est l'éco-conception qui permet aujourd'hui de développer une petite idée que le tri... une réduction à la source, qui fait partie donc du quatrième élément, sur lequel aujourd'hui on commence, dans cette commission du déchet, à avoir un vrai consensus.
Alors ça, c'est l'éco-conception, ça c'est la tarte à la crème des stratégies de communication des grandes entreprises industrielles, commerciales, etc. Hein.
Évidemment.
Ils sont tous à fond là-dedans, on fait de l'éco-conception, patati patata, etc. Qu'est-ce qu'il en est en réalité ? Enfin, moi, j'en sais, pas grand-chose en définitive, en dehors du...
Disons, si vous voulez, il faut être extrêmement vigilant. À chaque fois qu'on a affaire à des groupes financiers, il y a toujours la parade qui est trouvée. Je vous prends un exemple. Si vous avez un produit qui est emballé par 4-5 emballages successifs, et ça arrive fréquemment, si vous commencez à dire « ça n'est pas environnemental » et vous donnez un label à celui qui en met qu'un ou deux, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous faire, au lieu de vous vendre le produit par 10, il va vous le vendre à l'unité, vous voyez ce que je veux dire ? Ou à 2 par 3. Mmh. Et il va vous mettre un label écologique parce qu'il va faire plus au niveau du packaging. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Et c'est vrai qu'à chaque niveau, hein, dans l'éco-conception et ailleurs,
compris à ce que vous m'avez dit. Alors, donc, il y a un emballage, un produit avec... allez, prendre un petit truc des chewing-gums, tiens, par exemple.
Bon.
Alors, un bout de papier, un bout de truc alu... Un petit truc qui entoure les plusieurs trucs de chewing-gum, puis un quatrième cellophane, ça fait quatre emballages.
Mais,
alors, ouais, bon.
Mais très souvent, là encore, le paquet de chewing-gum, c'est pas le meilleur exemple.
Ouais, le café.
Parce qu'en fait, c'est quand vous avez par exemple la petite voiture électrique pour votre enfant qui va devoir vous sauter aux yeux dans le rayon à Noël.
Oui.
Là, ils ont intérêt à vous mettre un petit paquet, puis un plus gros, puis un encore plus gros, avec des couleurs, des plastiques durs, des cartons, ils mettront un peu de tout pour attirer votre œil.
Ouais, et moi, je rajouterai après un papier cadeau et un plus en
ruban.
Exactement. Et vous aurez mis un bonnet dessus.
Il y a déjà la conception. Un travail à faire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir une grande vigilance parce qu'on pourrait faire passer comme un packaging écologique quelque chose qui ne l'est pas. Parce qu'encore une fois, on peut jouer sur d'autres facteurs que le paquet en lui-même, sur la taille, vous savez, sur la quantité qui est dans chaque paquet.
Ça veut dire qu'en fait, il y a un contrôle, si vous voulez, une vigilance à avoir à tous les niveaux.
Une responsabilité du producteur.
Alors tout à l'heure, vous parliez sur on parlait des déchets. Alors le traitement des déchets, c'était aussi, on y est là, à la source. Et vous disiez, François Vasquez, vous disiez, mais c'est bien d'aller aussi vers l'achat de produits où il y a du vrac. Hein, j'ai entendu ça tout à l'heure.
Ouais, c'est moi qui l'ai prononcé.
C'est vous ? Ah, c'est vous, ouais, alors. C'est Francis Glémé. Mais comme on est dans une société d'hygiène, etc., là, vous avez toujours des... Alors, vous qui êtes pharmacien de formation, ça ne vous gêne pas, vous, qu'on rentre à l'ancienne, qu'on ait l'épicerie ou l'épicerie
La viande, par exemple, si elle est sur un étal bien taillé, avec des règles d'hygiène et enveloppée après dans un papier simple, recyclable, moi, je ne suis pas gêné sur
un
plan...
Pour aller chez le boucher et pas...
En hypermarché.
Ah oui, d'accord. Okay.
Dans le rayon, plutôt que d'avoir déjà le premier packaging dont parle François, c'est de mettre dans des matières de polyuréthane et un film de plastique. Oui. Quand vous avez vous déchets ça, c'est déjà souillé par la viande.
Oui.
Bon, vous le mélangez avec votre poubelle.
Oui.
Et ça va encore alimenter la poubelle qui sera souillée.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à ces...
Décidément,
je ne comprends rien là, depuis 10 minutes.
L'exemple allemand. L'Allemagne a mis sur pied une législation très contraignante. La ménagère allemande va chez le boucher ou au supermarché, au rayon de boucherie, avec sa boîte en plastique.
On est en 2007, on peut laisser tomber la ménagère maintenant.
Le consommateur moyen, allons-y.
Foutons la paix à la ménagère.
Ou la consommatrice moyenne va chez son boucher avec sa boîte en plastique bien nettoyée, bien propre. On lui met sa viande dans sa boîte en plastique, elle l'emmène chez elle. Il n'y a pas d'emballage, l'emballage est relavé à la maison et resserre la fois suivante.
D'accord.
C'est une boîte en plastique, c'est simple. Alors bien sûr, on est loin d'atteindre le degré de perfectionnisme des Japonais qui ont 25 poubelles de tri différentes.
Pourquoi pas, moi,
Votre appartement, vous le verriez bien comme ça?
Non, mais il y a
Non,
mais on peut mettre un local. Moi, ça me dérangerait pas.
Ça demande de la conception des habitations déjà une autre forme, parce que aujourd'hui, dans le permis de construire, et ça a été demandé au Grenelle justement santé environnement, que dans les permis de construire aujourd'hui que les maires vont délivrer, eh bien, on prévoit aujourd'hui justement un certain nombre de locaux pour le tri et dans les appartements, sous les éviers, concevoir 2 à 3 ou 4 bacs de réception. Mais déjà, c'est déjà important.
C'est marrant parce qu'on est vraiment à la préhistoire de toutes ces actions-là, en définitive.
En France ?
Parlons de préhistoire. La préhistoire, c'était...
On parle d'écologie tous les jours. Mais dans les faits, c'est dur. Ça rame. Hein.
Nous avons quand même, en France, le record d'Europe de l'évolution des taux de cancer. Tous les 20 ans, nous multiplions par 2. Alors qu'en Angleterre, en Allemagne, le taux de progression est divisé par 2.
Mais on a aussi un record de la consommation des antidépresseurs. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays?
On est en queue par rapport à nos voisins immédiats. Même l'Espagne est en train de trier mieux que nous en ce moment.
François,
Vasquez,
petite précision. On dit, et j'en ai parlé avec des jeunes, là, j'avais une réunion avec un lycée agricole, là, et des jeunes me disaient, mais nous, on est convaincus que le tri est utile, mais mes parents, ils le font pas. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Francis, on va les y aider. Et il y a un moyen très simple, notamment en zone pavillonnaire, c'est ce dont on a effleuré tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la pesée embarquée. C'est que vous ne payez que le poids des ordures non triées. Il y a deux choses dans l'environnement. D'abord, il faut responsabiliser les gens en les éduquant, en leur expliquant ce qu'il faut faire. Et quand ils ne le font pas, ils vont avoir une petite pénalité.
Non, mais ça, c'est bien, mais il faut le mettre en place. Ça demande
très facile à mettre en place. Oui. Les zones pavillonnaires, vous avez une poubelle avec une petite puce. Quand le camion à ordures prend votre poubelle et qu'il la bascule, le poids à vide par rapport au poids plein, il y a un différentiel de fait. Et ça pèse à votre nom, donc, le poids. Alors, on peut même les fermer à clé pour pas que ça se passe à des voisins. Il y a une base quand même de redevance minimum. Et vous payez après en fonction du poids. C'est comme ça qu'en Alsace, ils sont passés de 400 kg à 96 kg par habitant.
Oui,
parce que tout le reste des déchets, tout ce qui est trié, plastique, verre, ou métaux, c'est relevé gratuitement. Voilà comment.
Et valorisé par les communes.
François Vasquez, vous êtes un techno-écologiste.
Si vous voulez.
Proposer de mettre l'électronique et l'informatique au service.
Mais moi, je vais même plus loin que François. En parce que moi, je ne peux plus supporter aujourd'hui que un concitoyen souffre à cause de l'environnement. C'est devenu pour moi viscéral. Je le vis au quotidien, et ça, c'est quelque part quelque chose qui me gêne. En tant que professionnel de santé, et nous l'avons bien exprimé aujourd'hui, même au niveau du médecin, avoir une consultation santé-environnement. Comme si on avait, par exemple, une consultation diabète ou obésité. Vous voyez un petit peu la démarche dans laquelle aujourd'hui nous sommes. Donc ça veut dire que aujourd'hui, moi je vais plus loin. C'est-à-dire que je veux effectivement que dans notre agglomération, dans l'habitat vertical, ce dont vous avez parlé vous-même tout à l'heure, vous étiez vraiment engagé. Il ne faut pas grand-chose à nos concitoyens pour leur dire le vrai avantage pour nous, notre santé, et ensuite nos moyens, notre sécurité sociale. On veut la défendre, mais c'en est un. Ensuite, on peut gérer dans la commune l'économie engendrée par ça. Je vais vous donner un chiffre, on l'a chiffré, sur 100 millions que coûtent aujourd'hui les déchets sur l'agglo de Montpellier, on peut économiser 30 millions d'euros. C'est un chiffre que prochainement on va développer, on va avancer tous ensemble. Vous imaginez ce que ça peut être ?
C'est pas des cacahuètes, c'est de l'argent.
Attendez, 30 millions d'euros, c'est 3%.
Ah ben non, c'est pas des cacahuètes. Si on fait un apéritif avec des cacahuètes pour 30 millions d'euros, il y a des invités.
30 millions d'euros,
hein.
Vous pouvez les mettre, par exemple, dans un autre élément de santé publique. C'est celui des transports avec, avec la qualité de l'air. Et là, on va encore engendrer une autre forme de démarche de protection environnementale.
Pourquoi ?
Alors, on a 2 minutes, même pas une minute pour finir. Alors, je vais quand même vous demander que si les auditeurs, les auditrices veulent en savoir plus, vous avez les uns et les autres des sites internet. Est-ce que vous voulez bien donner les adresses de vos sites internet respectifs ? Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire encore. Raymond Guimilio, Gimilio, l'ODAM.
L'ODAM, c'est très simple. Oui. http://odam.fr.
D'accord, très
bien. C'est très simple.
François Vasquez ?
Moi, vous tapez François Vasquez sur les moteurs de recherche comme Google et vous trouvez mon site.
Ok. Alors Vasquez, V-A-S-Q-E-Z.
François.
Ok. ODAM, ODAM, d'accord.
Eh bien, l'AMIES, il en est de même. Vous tapez AMIES France.
AMIES.
France, d'un seul tenant, point info. Et là, vous allez retrouver des propositions de traitement et aussi, bien entendu, tous les effets négatifs des différentes filières de traitement.
Si vous ne les trouvez pas, l'ODAM a des liens sur ces différents sites.
On aurait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus, mais une heure, c'est court. Et en tout cas, je vous remercie. On est un peu plus éclairé aujourd'hui sur ce qui se passe. On peut faire quelque chose. Hein. Chacun peut aller voir sur vos sites et peut-être s'engager auprès de vous. Et chacun peut effectivement aussi avoir une action auprès de ses représentants politiques. Parce que quand on est avec moi, avec mon petit sac poubelle, forcément, je ne vais pas toujours pas pouvoir trier mes pelures de pommes de terre demain matin. Donc,
voilà, si vous voulez, vous pouvez le faire avec un lombricomposteur.
Ah, oui, c'est ça.
Eh bien oui, non, mais attendez, c'est ça la vraie donnée.
C'est pas donné, combien ça coûte.
Non, dans les 30 euros.
Encore du fric. 30 euros. À 30 euros, je vais pouvoir y arriver. Ok, bon, ben c'est pas mal. Merci à vous. C'est tout naturel. On a parlé des déchets. C'était très passionnant. Je vous remercie. À très bientôt.
Merci.
L'émission sera rediffusée ultérieurement. À bientôt.
Au revoir.
L'homme se trouve aujourd'hui en face du plus grave conflit de son histoire.
C'est tout naturel. C'est tout naturel. C'est tout naturel. C'est tout naturel.